Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Cette émission est le 9e volet d'un entretien en 12 parties que Roger Caillois accorda à Janine Worms en 1970. Dans cet épisode, Roger Caillois évoque la littérature de science-fiction et ses liens avec le fantastique. Selon Caillois, la science-fiction est toujours sinistre. Elle traduit l'angoisse de l'homme devant une science qui le dépasse.
Roger Caillois, vous nous avez expliqué hier comment le merveilleux qui était antérieur au monde de la science était le monde du miracle généralisé, où tout était possible, où les petites fourmis accomplissaient des travaux impossibles aux hommes. Et en même temps, nous avons vu
et que... Et qui excluait par conséquent le mystère et l'énigme. Je dirais même, et l'inquiétude. Parce que même une inquiétude devant un dragon, c'est pas une inquiétude, parce que le chevalier arrive toujours à le pourfendre. Le dragon a beau être couvert d'écailles et jeter du feu, le chevalier a pour lui la protection des puissances bonnes, des puissances qui l'aident, et il vient à bout du dragon. Ce qui fait que le monde fantastique devient sinistre, c'est que la puissance contre laquelle le héros a lutté, la question n'est pas de lui donner la mort, il est déjà mort, il revient de l'au-delà. Alors là, il est complètement désarmé et on peut dire qu'il est vaincu d'avance. Il sait qu'il succombera, c'est-à-dire qu'il sera emporté de l'autre côté de cette barrière infranchissable d'où l'autre vient et où il l'attirera.
Par le vampire, le zombie, le mort-vivant.
Par le spectre.
Mais c'est cela précisément qui fait mon étonnement. Comment ce merveilleux qui correspond donc à ce monde misérable du Moyen-Âge, où les tâches étaient si lourdes, tâches que maintenant, merveilleuses choses pour nous, elles sont effectuées par les machines, comment donc ce merveilleux antérieur à ce soulagement dans les tâches humaines est heureux et rose, comme vous le disiez hier, et comment ce fantastique qui correspond à un monde soulagé des tâches, mais quand même effrayé comme peut-être il ne l'a jamais été par les menaces également qui pèsent sur lui, comment ce fantastique est lui toujours noir.
Bien, il n'est pas toujours noir. Il est noir tout de même, et ceci est une chose qui vaut d'être remarquée. Prenons les utopies. Les utopies du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle.
Faites-vous des utopies un élément du fantastique?
Bien sûr.
Même pas du merveilleux?
Même pas du merveilleux.
Du fantastique?
Du fantastique.
Allons-y.
Eh bien, ces utopies, qu'elles soient d'ailleurs merveilleuses ou fantastiques, je ne vous chicanerai pas sur ce point, sont toujours des récits ou des situations ou des mondes qui réalisent tous les désirs des gens qui vivent dans une société qui leur paraît mauvaise et injuste. Ce sont donc des utopies merveilleuses. Eh bien, vous aviez raison, c'est plutôt le merveilleux. Ça n'est pas le fantastique. Par surcroît. Et donc, la réalisation d'un monde merveilleux. Et maintenant, à partir, disons, du meilleur des mondes de Huxley, et avec 1984, de Orwell. Ces utopies, ces mondes futurs, ces mondes qui devaient résoudre toutes les questions sont devenus au contraire des mondes de cauchemars.
Vous apportez de l'eau à mon moulin?
Oui, j'apporte de l'eau. Ah,
et par surcroît,
Seulement, je voudrais tout de même après expliquer comment le moulin marche, n'est-ce pas? Alors, ces utopies, qui étaient donc des merveilles, enfin des mondes merveilleux, sont devenus des mondes abominables où ce ne sont plus les espoirs qui se réalisent, ce sont les appréhensions et les craintes. Et on peut dire que les utopies qui étaient merveilleuses sont devenues fantastiques. Elles sont devenues fantastiques parce que la science a cessé de rassurer. Elle fait peur. Et c'est très compréhensible, elle fait peur parce qu'il y a la bombe atomique qui peut faire sauter la planète, bien entendu. Et c'est pourquoi une bonne partie des récits de science-fiction se passe sur un monde qui est postérieur à la guerre atomique, sur un monde dévasté, où il ne reste plus que quelques survivants. C'est déjà une première donnée, disons, de la science-fiction, qui, dans mon esprit, fait suite à la fois aux contes de fées et aux contes fantastiques du type Hoffman ou Edgar Poe. Et elle se rapproche beaucoup, elle est parallèle, si on prend le fantastique comme axe, disons plutôt qu'elle est symétrique au conte de fées, parce que le conte de fées qui était situé, comme je vous l'ai dit, dans un passé extrêmement lointain et où on ne pouvait pas aller, c'est il y avait une fois, tandis que le monde de la science-fiction, et il y aura une fois. Et c'est un avenir extrêmement proche, puisque, comme je vous l'ai dit, il est souvent commandé par la terreur d'une guerre atomique qui anéantirait l'humanité. Mais ça n'est pas seulement le développement de la physique qui effraient les hommes et qui les fait rêver à la science-fiction. C'est aussi les progrès de la biologie, ce qui joue un très grand rôle dans les thèmes de la science-fiction. C'est le thème des mutants, c'est-à-dire des gens dont on a modifié le système nerveux à l'aide de la neurochirurgie et qui viennent, par exemple, des télépathes, des gens qui savent à tout moment tout ce que pensent tous les autres. Et c'est infernal parce qu'il se produit un tohu-bohu dans leur tête. Ils reçoivent toutes les ondes de tout le monde à la fois, qu'ils ne peuvent pas survivre ou qu'ils deviennent fous. Alors il y a le thème de l'anéantissement du monde, l'anéantissement de l'humanité par la bombe atomique. Il y a le thème des progrès de la neurochirurgie qui fait qu'on va transformer le cerveau de l'homme et qu'on va même transformer son être physique grâce aux manipulations de chromosomes. La biogénétique joue aussi un énorme rôle dans ces fantasmes. Et puis il y a enfin ce que j'appellerais le mythe moderne par excellence, celui peut-être qui est le vrai mythe qui a succédé au mythe de Paris dont nous parlions récemment, c'est le mythe de la machine que l'homme a construite et qui devient plus fort que lui. Eh bien toutes ces craintes convergent et fait que la science-fiction est presque toujours sinistre.
Je voudrais vous dire deux choses à cela, Roger Caillois. La première, c'est que lorsque vous définissez le fantastique comme une rupture dans le monde ordonné par la science, je ne vois pas en quoi l'utopie représente cette rupture, ça représente autre chose, et nous avons vu par surcroît que l'utopie contemporaine est une utopie sinistre. Je voudrais vous demander surtout comment... Si au Moyen-Âge, le monde quotidien noir, tout le monde quotidien est noir, au Moyen-Âge il l'était du fait des tâches, du fait des servitudes, etc., correspondait à un merveilleux rose, comment à notre univers noir contemporain menacé par, en effet, la bombe atomique, menacé par la...
Il est menacé sous forme de menace, il est menacé dans l'imaginaire. Mais par comparaison au monde du Moyen-Âge, c'est un univers rose qui donne des rêves noirs. Et puis il y a quelque chose d'autre qui intervient. C'est que la science, non seulement est efficace, qu'elle permet d'accomplir les travaux qu'on considérait comme de simples souhaits merveilleux. La science a remédié à la famine. On n'a plus besoin de penser à un chaudron qui ne désemplit pas ou à une corne d'appendance qui donne toujours à manger. C'est que la science apporte aussi une régularité dans le monde. Elle fait comprendre que le soleil se lèvera tous les jours, simplement parce que le soleil ne se lève pas, parce qu'on nous a appris à penser que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Mais maintenant, la science ne nous fait plus vivre dans ces cadres tout faits, qu'était l'espace, le temps. On nous apprend que le temps, l'espace, la matière et l'énergie, tout cela, ce sont des formes mobiles et différentes d'une même réalité qu'on n'arrive plus à gouverner et qu'on n'arrive plus à comprendre et qu'on n'arrive même plus à se représenter. On parle de quatrième dimension, de cinquième dimension, de sorte que la science qui vous rendait le monde compréhensible et qui vous permettait d'organiser vos perceptions, maintenant vous apprend à douter, non seulement de vos perceptions, mais aussi de la façon dont la raison les organise. Si bien que la science, qui était avant quelque chose de rationnel, ou du moins de rationalisant, qui luttait, disons, contre les ténèbres de l'imagination, maintenant suscite le doute, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi beaucoup de science-fiction les plus intéressantes, celles qui sont faites généralement par des mathématiciens ou par des professeurs de physique mécanique, jouent sur différents espaces parallèles, par exemple, ou se jouent sur le voyage dans le temps. Non pas conçu comme dans les romans de Wells, où un voyageur se promène dans le temps, mais on comprend très bien que s'il peut se produire un retour en arrière, et si quelqu'un introduit une modification dans le temps, c'est toute la chaîne des causes et des effets qui va se trouver modifiée, d'où ce qu'on appelle le paradoxe temporel, par exemple.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a là les prolongements philosophiques, la science-fiction.
Mais elle sort de la philosophie et des mathématiques. Dans ce qu'elle a de meilleur, à bien qu'on se soit naturellement des histoires de guerre planétaire, c'est simplement une extension, disons, de la guerre des gendarmes et des voleurs ou des sioux et des cow-boys. Ça reste au plan de la littérature enfantine. Elle peut d'ailleurs être au plan, d'ailleurs, comme chez Bradbury, d'ailleurs, elle peut rester au plan de la littérature satirique. C'est-à-dire qu'on imagine ce qui se passe dans une autre planète pour montrer les imperfections de ce qui se passe sur la nôtre. Mais là, c'est quelque chose de très différent. C'est qu'on nous explique, par exemple, que si quelqu'un fait un voyage dans le temps et qu'il tue son grand-père, par exemple, lui n'aura pas pu naître. Et s'il n'a pas pu naître, il n'a pas pu retourner dans le temps, ni par conséquent tuer son grand-père. Mais s'il n'a pas tué son grand-père engendrait son père et lui-même. Et par conséquent, lui a pu aller dans le temps pour tuer son grand-père. Et nous avons là une sorte de paradoxe qui ressemble tout à fait d'ailleurs à celui d'Épiménide et des Crétois. Des Crétois menteurs qu'on ne peut pas croire, mais s'ils sont menteurs et qu'ils disent qu'ils sont Crétois, etc. Vous connaissez, c'est un des protosanes de la logique dans les classes de philosophie. Mais là, c'est tout de même un apport très positif de la science-fiction que de cette réflexion sur le temps et sur l'espace, enfin, sur les cadres premiers de la sensibilité. Et je crois qu'il y a aussi une très grande utilité. Et c'est qu'elle nous permet d'épuiser, par exemple, les systèmes de grammaire ou les systèmes de religion, ou les systèmes sociaux ou les systèmes biologiques. Naturellement, sur le plan de la littérature sur les enfants, ça se traduit avec des martiens, avec 14 yeux verts et beaucoup de tentacules violets, n'est-ce pas? Mais si on pense le nombre de sens qu'un homme pourrait avoir, qui ne serait pas seulement l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. On peut imaginer, d'après les ondes, le clavier des ondes qui existe, beaucoup d'autres sens. Et alors, il ne s'agit plus maintenant d'imaginer des créatures pittoresques. Il s'agit d'imaginer les sens que pourrait avoir l'homme ou n'importe quel animal vivant et qui compléterait le clavier de ce qui nous permet de percevoir l'extérieur. On peut penser la même chose pour la grammaire. Nous avons une langue avec des verbes, avec des adjectifs, mais il y a beaucoup d'autres formes grammaticales qui seraient possibles, que l'on pourrait concevoir. Eh bien, la science-fiction, en imaginant dans les différentes planètes habitées ou habitables qu'elle suppose, est conduite à supposer également un certain nombre de grammaires, un certain nombre de religions, un certain nombre de structures sociales, qui ne sont pas des utopies, puisqu'elles ne sont pas imaginées gratuitement, mais qui dérivent d'une sorte d'axiomatique que les auteurs ont pu se faire d'après des travaux presque tous très théoriques et très abstraits.
C'est-à-dire que, à vous entendre maintenant, la science-fiction n'est plus du tout seulement un prolongement du fantastique, comme vous l'avez dit, je crois, jadis, mais qu'elle ouvre au contraire un champ extrêmement vaste au possible et à la spéculation.
Elle n'est pas un prolongement du fantastique, elle prend la suite du fantastique, et de la même manière absolument que le fantastique traduisait l'angoisse de l'homme devant un monde absolument déterminé, où la seule chose impossible est la barrière entre la vie et la mort, mais que tout le reste était absolument soumis à la science, de la même façon, la science-fiction représente l'angoisse de l'homme devant une science qui le dépasse et qui lui rend le monde incompréhensible. C'est-à-dire que maintenant, la science le trouve et lui fait se poser des problèmes, alors qu'autrefois, elle l'aidait à les résoudre.
Ce que vous venez de dire nous ouvre à notre tour des champs très vastes pour notre imagination. Et si vous le voulez bien, demain nous verrons comment le fantastique s'est manifesté dans les arts plastiques.
C'était Roger Caillois au micro de Janine Worms, 9e volet d'un entretien en 12 parties. Première diffusion de cette émission le 1er juillet 1970. À suivre.